Jésus, je voudrais te rendre grâce, te louer, Seigneur, pour cet instant, pour cette occasion, Seigneur, qui m'est offerte pour te glorifier, te rendre gloire, te rendre honneur, que tu sois, Seigneur, le centre de cette soirée, parce que tu es grand, parce que c'est toi qui fais des miracles et qui a le pouvoir de changer le cœur de l'homme, qui a le pouvoir de le transformer et de l'amener à la repentance, comme tu l'as fait avec moi, Seigneur. Seigneur, que ce témoignage serve à te glorifier et à attirer vers toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Donc, je commencerai par me présenter. Donc, je m'appelle Shafika Ben Sadi. Je viens d'Algérie. Je suis née en Algérie. Et voilà, 14 ans que je vis en France. Je suis de père algérien, Kabyle, et de mère française. Ça s'appelle Denis... Non, le nom de ma mère, je l'ai oublié tout d'un coup. Non. Ma mère s'appelle Ghislaine Denise Georgette. À mon avis, elle n'est pas plus français que ça. Et Ben Sadi veut dire fils. Ben, c'est fils. Hein. Donc, fils d'eux, c'est fils du bienheureux ou alors fils du chanceux. Et effectivement, pour dire que chanceuse, je le suis. Et la chance de ma vie, c'est d'avoir rencontré Jésus. Et je l'ai rencontré en Algérie. Il y a maintenant bien 25 ans quand même. Ouais. Il est venu à ma rencontre et comment? Donc, je suis issue d'une famille nombreuse comme pratiquement toutes les familles algériennes. Un minimum d'enfants, c'est 5. Mon père est l'aîné de 17 enfants, de la même mère. Et ce que je voulais dire, c'est que ma maman nous a enseigné à fêter Noël. Donc mes parents ont fait un compromis, hein. Donc ils essayaient de s'arranger. Mes parents n'étaient pas religieux, pas pour dessous. Ma mère était d'origine catholique, hein. Elle a fait son catéchisme pour plaire à ses parents, mais sans plus. Mon père non plus n'était pas vraiment religieux, mais bon, pour faire bien. Donc ma mère nous a fêté Noël, m'a parlé du Père Noël, et mon père fêtait la fête du mouton, donc il y avait le sacrifice. Comme ça, tout le monde était content. Mais Dieu, on en parlait à l'école, par contre. On me demandait de réciter des versets coraniques. C'était pas évident parce que je comprenais pas l'arabe. Et toutes les fois où on parlait de Dieu, j'avais plus peur qu'autre chose. Donc, quand on grandissait, ma grand-mère paternelle, du côté de mon père, qui a été jusqu'à même aller à la Mecque. Elle a veillé à nous communiquer la religion. Elle me disait souvent, toi, t'es comme ton père, pas comme ta mère. Mais je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Mais l'essentiel, c'est qu'il fallait surtout, à un certain âge, faire le ramadan. Le ramadan, c'est jeûner, c'est-à-dire ne pas manger, ne pas boire, du lever du soleil jusqu'au coucher. Et quand il fait 40 degrés à l'ombre, c'est pas facile à l'âge de 7-8 ans. Ne pas manger, je résistais, mais pas boire, c'était pas évident. Donc, comme l'infrastructure fait que parfois tu as des bassins où il y a comme des genres de fontaines, hein. Les maisons, c'est des grandes cours. Et, on a quand même le droit de se rafraîchir, hein, le visage. Et tout en me rafraîchissant, j'ai regardé à droite, j'ai regardé à gauche, personne à l'horizon, j'ai avalé quelques gorgées. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des problèmes avec ma conscience. Et cette voix était dans mon intérieur, menteuse, tricheuse, tu as triché, tu as volé, tu as rompu ton jeûne. Je dis, mais c'est juste quelques gouttes et c'est tout. Oui, mais tu as rompu ton jeûne. Et personne ne t'a vu, ni ta grand-mère, personne ne t'a vu. Mes parents ne m'obligeaient pas. Au contraire, mon père, des fois, il disait à ma mère, donne-lui à manger, c'est une loque humaine, arrête ton cinéma. Mais j'avais peur de la grand-mère, par contre. Donc, pour dire que ce moment où j'ai commencé à tricher, à partir de là, c'était la voix intérieure. Et là, je me dis, ma grand-mère ne l'a pas vue, mes parents ne m'obligent pas. Est-ce que Dieu m'a vue? Est-ce que vraiment Dieu le sait? Et c'est là que je commençais vraiment à me poser de sérieuses questions par rapport à Dieu. Donc, je devais avoir à peu près 10-11 ans. Et j'ai une sœur, Aïcha, pour ceux qui la connaissent, elle était très à cheval sur la religion, elle a commencé vraiment à s'intéresser à l'islam. et à faire la prière, était vraiment à cheval là-dessus, et elle me faisait même très peur, parlait souvent de la mort, du paradis, de l'enfer surtout. Dès qu'elle commençait à parler, moi je me sauvais, je dis arrête parce que ça me fait peur, moi j'ai envie de vivre. Hein. Et donc voilà, c'est la religion, elle l'a pratiquée, elle était bien sur le point de mettre le voile, et puis elle de son côté, ce qu'elle cherchait c'était le salut. Et quand elle voyait que dans le Coran, à aucun moment on ne promet le salut, donc elle a commencé à s'inquiéter. Et elle a posé des questions autour d'elle, et là, on lui a même dit que c'était quasiment blasphématoire. Et la chance, c'était mon frère qui était étudiant à Alger. C'était une époque un peu de... Il y avait les communistes, il y avait un peu les hippies. C'est une nouvelle mode qui arrivait chez les étudiants. Et donc lui il dit moi je crois pas en Dieu, et il me posait des questions, il dit ouais écoute toi moi tu crois en quelque chose, mais il fait écoute j'ai un pote qui m'a donné un livre, lis-le peut-être que tu vas trouver quelque chose, et il lui donne ce livre, c'est écrit la Sainte Bible. Elle a eu du mal à le prendre, il fait mais arrête hein, c'est sorti d'une imprimerie hein. Elle était étudiante quand même, donc elle avait quand même assez évolué. Elle s'est décidée à lire cette Sainte Bible en disant, parce qu'elle l'a quasiment lâché, elle fait, mais attends, ce n'est qu'un livre, c'est sorti d'une imprimerie, si tu prends ce qui te plaît, le reste tu le laisses. Et à partir de là, elle a trouvé des réponses à ses questions. Alors autant pendant une période, elle nous prenait la tête avec Mahomet, l'islam, le Coran, le jeûne, le Ramadan et tout le Bataclan, c'est à peine si on avait le droit de s'asseoir sur son lit parce qu'elle était sainte, et elle faisait, une fois qu'elle avait fait l'ablution, il ne fallait plus toucher à ses affaires, sinon sa prière n'était plus valable. Et puis tout d'un coup, elle se mettait à me parler de Jésus. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir? C'est incroyable. J'ai dit, c'est encore une nouvelle mode. Mais ça n'empêche que moi, pendant ce temps-là, je commençais quand même à me demander, est-ce que vraiment Dieu existe? Et c'est qui le Père Noël? Pourquoi Mahomet? Mais c'est vrai, quoi. Parce que bon, je me disais, bon, au fond, j'étais pas si sage que ça, mais bon, j'avais quand même mes cadeaux. Hein. J'étais plutôt espiègle. Et elle était branchée sur Radio Évangile. Alors on avait ce qu'on appelait nous là-bas, on appelait ça le transistor. Donc c'est un poste radio tout simplement. Et à Radio Évangile, et comme on partageait la chambre, on était 9 enfants, donc bon, les grands étaient déjà mariés, bon, on était quand même à 8, dans la même chambre, les 5 filles, 6, des fois les cousines, enfin, les uns sur les autres. C'était assez colonie de vacances. Et tout le monde y avait droit à Radio Évangile. Et c'est là que je commençais cette même voix continuer à me parler. Et ben, bien sûr, s'il y avait des paroles qui me dérangeaient, parce que même à cet âge-là, entre 14 et 15 ans, je savais que j'avais déjà bien triché, bien volé, bien menti. Je savais que j'étais pas nickel. Hein. Donc, comme on avait des tâches qui étaient bien, et chacun avait son tour de vaisselle, chacun avait son tour, ta mission à faire. Donc, pour pas faire d'histoire, j'allais faire mon tour de vaisselle au moment où il y avait Radio Évangile. Comme ça, j'évitais Radio Évangile parce que ça me prenait trop. Et au fur et à mesure, il y avait des moments où je n'avais pas où aller et c'était pas mon tour de vaisselle et je n'allais sûrement pas aller faire le tour de vaisselle de quelqu'un pour éviter Radio Évangile. Et puis finalement, je me retrouvais à écouter ces émissions. Et à la fin de l'émission, il y avait les louanges qui m'interpellaient, qui me plaisaient, ça faisait du bien. Et à la fin de l'émission, il y a l'orateur qui fait un appel. Et dans mon cœur, je disais, oh, si seulement c'était la vérité. Je dis, si seulement c'était la vérité, est-ce que c'est juste? Pourquoi avant, elle me parlait de Mahomet, puis elle a arrêté de faire la prière, puis maintenant, elle parle de Jésus? Parce qu'en plus, l'avantage avec ma sœur, c'est que mon frère lui a donné ce livre et il a commencé à lire la Bible. Et c'est par... Mon frère, lui, ne s'est pas converti avant de lui donner cette Bible. Hein. Et elle lui posait plein de questions. Et du coup, pour pouvoir lui répondre, il fallait qu'il lise la Bible. Et là, il se trouve que c'était un groupe à Alger. Il y avait des missionnaires, en fait, qui étaient des coopérants qui venaient enseigner dans les universités. Mais leur mission, c'est en fait un biais, en fait. Et leur mission, c'était d'évangéliser et d'introduire des Bibles. Et vous imaginez, un de ceux où il y avait trois Français, donc trois familles françaises qui étaient à l'université d'Alger. et qui se réunissaient et qui priaient. Et puis il y avait un premier arabe qui s'est joint à eux et un deuxième. Et ce deuxième arabe, eh ben, c'était le copain, mon frère. Et en fait, le mot d'ordre qu'ils avaient reçu, ces Français, c'était une conversion par famille. En fait, ils évangélisaient un membre de la famille et puis ça faisait tache d'huile. Mais c'était une période, il y avait un réveil. Donc c'est 25 ans en arrière, ça fait à peu près dans les années 80. Bien sûr, 1980. Et vous imaginez qu'un des trois Français, c'est Théo Hamann. 20 ans après, on se retrouve quasiment toute la famille en Alsace. Et au début, j'étais à Rixheim. Et j'atterris à l'église de Théo Hamann. Un jour, le Seigneur me disait, j'avais un peu peur de Théo parce qu'il est assez imposant quand même pour ceux qui le connaissent. Il représentait l'image de mon père. Et je ne voulais pas l'approcher. Le Seigneur me dit, va, discute avec lui. Je dis, je ne peux pas discuter avec lui, merci, sans façon. J'ai peur, je dis, mais de quoi il me fait? Il a travaillé 10 ans en Algérie, peut-être que tu as des choses à lui dire, peut-être des choses à apprendre. Et un jour, j'ai obéi. Il m'a invité 3 fois, et 3 fois j'ai refusé, la 4e fois j'ai accepté. J'ai même dû provoquer une invitation. Et c'est là que j'ai appris ça. Vous imaginez comment ce que Seigneur, 20 ans après, et quand j'ai été annoncer ça à ma sœur, elle m'a dit, je savais qu'il y avait un truc, mais je ne savais pas quoi. Donc pour vous dire comment ce que Seigneur a... Et la première Bible qui a atterri chez nous, ben, venait de chez Théo. Donc ma sœur disait à mon frère, elle disait, mais donne, explique-moi. Il fait, mais rends-moi cette Bible. Enfin, celle-là, je la rends pas, tu n'as qu'à aller en chercher une autre. Alors que justement, cet arabe-là avait prié pour que il en redemande une autre. Et c'est comme ça que les Bibles partaient. Et moi, ce qu'on m'a donné, c'était ni plus ni moins une bande dessinée. C'était l'Évangile en bande dessinée. Je ne savais pas que c'était l'Évangile. Pour moi, c'était une BD. Et le héros de cette BD s'appelle Jésus de Nazareth. Je voyais les BD de mes frères, c'était Raon, Tarzan et tout cela. Le héros de cette BD s'appelait Jésus de Nazareth, et puis il ouvre les yeux aux aveugles, il ressuscite même des morts, et toutes les fois où je lisais dans cet évangile, dans cette BD, toi suis-moi, et si seulement cet homme existe, ma parole là où il va, je le suis. Il me plaisait trop, mais ce n'était qu'un personnage, j'avais 15 ans et demi. Et là où il m'a... Et puis du coup, le fait de lire, c'est la parole de Dieu. Elle fait son œuvre. Hein. Une BD, un traité, elle fait son œuvre. Elle est agissante. Et j'étais au collège. Mes parents avaient une convocation toutes les semaines. Toutes les semaines, j'étais un voyou. Et ils ne savaient plus quoi faire avec moi. Et bien sûr, comme à la maison, on parle français couramment, et le kabyle. L'arabe, il y a l'arabe de la rue, et à l'école, c'est l'arabe littéraire. C'était dur. Et puis en plus, surtout qu'au début, on a commencé la scolarité dans une école française. Bon, pour continuer, il fallait venir ici. Mon père, il a dit hors de question. Donc du coup, on est parti dans une école algérienne. On me parlait l'arabe, j'y comprenais rien. Donc, bon, système D, il fallait copier pour s'en sortir. Et j'étais experte en la matière, ma foi. Et un jour... c'était des examens pour passer à la classe supérieure. Et c'était l'épreuve d'histoire-géographie. C'était en arabe, j'y comprenais rien du tout. J'étais là face à ma feuille. Et on avait des professeurs stagiaires. Et c'est un professeur stagiaire qui nous a surveillés. Tout d'un coup, elle vient vers moi. Elle me dit, je sais que tu as des difficultés en arabe. Je vais t'aider. Ma foi, c'était royal. Parce que non seulement j'allais copier, personne n'allait me choper, mais en plus j'allais avoir tout juste, parce que c'est un risqué de se copier sur un copain ou une copine, parce qu'au risque que lui aussi il a fait faux. Et au moment où elle me proposait ça, vous imaginez, c'est hors la loi quand même, hein, celui qui est censé te surveiller, c'est lui qui vient t'aider à copier. Et elle me dit, j'ai les réponses et je sais que tu as des problèmes dans mon arabe, je vais t'aider. Et au moment où elle me disait ça, ben aujourd'hui avec l'enseignement, je sais que c'était une vision. J'ai revu ce passage où Jésus, il était dans le désert après, quand il a jeûné 40 jours, et que le diable lui a dit, tu as vu tous ces royaumes-là, ils sont à moi, quel mensonge déjà. Il a dit, tous ces royaumes, ils sont à moi, si tu te mets à genoux devant moi, eh ben je te les donne. c'est venu comme ça. Et il me disait, alors tu prends ton stylo. Et j'avais eu envie de faire comme Jésus. Un déclic, ça a été en fraction de seconde. Je vous assure que pour la première fois de ma vie, à 15 ans et demi, je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. Je lisais juste cet évangile, cette bande dessinée. La première fois de ma vie que j'ai réalisé que j'avais le choix de ne pas tricher. Parce qu'en fait, dans le monde, l'éducation fait que tout le monde triche, tout le monde ment, même les adultes. Donc du coup, ben, c'est la devise. Et c'est comme si on n'a pas le choix. Tout le monde, c'est la monnaie courante. Et le déclic qui s'est fait dans ma tête à ce moment-là, c'est que j'avais le choix de dire non. Je l'ai regardée, je lui ai dit non, merci. Elle était étonnée, elle m'a dit quoi ? Je lui ai dit non, merci, je ne veux pas. Elle est partie, elle a eu les pétoches, elle a eu très peur. Parce qu'elle m'a poursuivie, et j'ai rendu une feuille avec mon nom, une feuille blanche. Elle m'a poursuivie dans les couloirs. Elle m'a saisie par le bras, elle m'a dit, pourquoi tu n'as pas accepté ? J'aurais eu une bonne note. Hein. Elle me dit, mais justement, mais là tu vas avoir un zéro. Je dis, ben, ça sera au moins le mien. Là, j'ai réalisé, je dis, ça sera au moins le mien. Je lui dis, à part que, je dis, elle me dit, mais là tu vas avoir un zéro. Je dis, mais je t'ai dit que ça sera le mien. À part que si tu m'avais aidé, j'aurais eu une bonne note, mais ça ne sera pas la mienne. Je l'ai regardée comme ça, je dis, ça s'appelle voler. C'est tricher. Et là, elle a eu peur, elle est partie, elle s'est sauvée. Bon, je dis maintenant, le souci, c'est que si tu avais moins de 2 sur 20, c'était la note éliminatoire. Il fallait avoir au moins 2 sur 20 pour ne pas refaire ton année. Je me dis, de toute façon, au point où j'en suis, c'est clair que je vais refaire mon année. Il s'est passé un laps de temps entre les examens, les corrections et les résultats, quand on nous a donné les résultats. Le prof a fait quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Il a dit, je rassemble tous ceux qui ont eu moins de 2, on était une demi-douzaine à peu près, je vous pose une question qui vaut 2 points. Il dit, si vous répondez juste, vous avez vos 2 points, vous évitez, au moins dans mon cours, vous évitez l'élimination. Pour moi, c'était de toute façon perdu, je ne comprenais pas la langue. Donc c'était perdu. Et quand mon tour est arrivé, il m'a posé une question que je n'ai pas comprise, auquel j'ai répondu juste et avec un arabe soutenu, s'il vous plaît. Même les camarades m'ont applaudi, m'ont dit « Ouais, Ben Saadé, c'est super, tu parles arabe quand tu t'y mets, toi !» J'ai dit « Je ne sais même pas ce que j'ai répondu. » Il me dit « Oui, mais c'est juste. » Et au moment où j'ai répondu, il s'est passé quelque chose. J'ai senti une présence. J'ai senti que quelqu'un m'a mis la main sur l'épaule. J'ai juste ouvert la bouche et une phrase est sortie. En arabe, soutenu. C'était pas moi. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, ma parole, il existe, lui. Je me suis retournée, j'ai dit, Jésus, il existe. Parce qu'au même moment, j'ai repensé à ce qui s'est passé. Que j'ai fait comme Jésus. Je suis sortie, j'ai regardé dans le couloir, en fait, c'est comme, parce que c'est tout le temps en plein air, on voit le ciel de partout. J'ai regardé le ciel et j'ai dit, Seigneur, mais à ce moment-là, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, Dieu, tu es vivant. Et Jésus, il est là. Tu es où ? Je le sentais, il me suivait. Il me suivait, et là, mais c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement il y a 25 ans en arrière, ça me suit encore aujourd'hui. Quand tu fais comme Jésus, tu l'honores, il t'honore. Ce 2 sur 20, pour moi, c'était 200%. C'était la plus belle des notes que j'ai pu avoir. Parce que c'est Jésus qui me l'a donné. À partir de là, j'ai continué à lire cette bande dessinée. J'ai dit, c'est mieux que Raon, c'est mieux que Tarzan. C'est mon Tarzan, moi. Et je vous assure que l'amour de Jésus est entré dans mon cœur. Et j'ai décidé de continuer à faire comme ça. Et cette révélation que j'ai le choix de dire non au mal. Et ça, personne ne te l'enseigne. Parce que ceux qui sont, de toute façon, ils sont rodés par le mensonge, ils ne peuvent pas te l'enseigner. Et un jour, un soir en février, après, je parlais de Jésus hein, autour de moi. Je n'avais pas encore donné mon cœur. J'ai dit, je vous assure que ça marche, quand on parle à Jésus, il te répond. Mais je ne réalisais pas ce que j'étais en train de faire et que ça allait me coûter. De toute façon, ça coûte. Le Seigneur nous a prévenus qu'on serait persécutés. Mais il a dit, heureux êtes-vous si vous êtes persécutés en mon nom. Et aussi espiègle que je pouvais être, un changement, tout le monde se demandait pourquoi, comment ça se fait que j'ai changé comme ça. Même dans ma tenue vestimentaire, j'étais enfin propre. On était obligé d'avoir une blouse pour être enfin, un tablier. On allait, ma blouse ressemblait à tout ce que tu veux sauf une blouse. Elle était chiffonnée, elle n'avait pas de bouton, elle était sale. Elle était en bouchon dans mon sac. Et la dernière seconde, quand je voyais le proviseur, je l'enfilais pour ne pas me faire taper dessus. Je ne la voulais pas, mais en fait, je refusais la hiérarchie, je refusais l'autorité, c'était surtout ça. Et là, je sortais de la maison avec ma blouse bien repassée. Studieuse, tout d'un coup, j'étais calme. Au moins, là où je ne comprenais pas, j'étais au fond de la classe, j'ai arrêté d'être perturbatrice. Et un soir de février, mon frère, qui avait donné son cœur au Seigneur, il a donné son cœur au Seigneur, il a compris qu'il devait évangéliser maintenant. Il a dit, elles vont toutes se convertir sauf ce chenapan. Et là, le Seigneur, il l'a vraiment mis au pied du mur. Non seulement je me suis convertie au moment où s'y attendait pas, et en plus j'ai reçu lui-là, très intellectuel. Hein. Il a prié pour savoir parler en langue, il ne recevait pas le parler en langue. Ma soeur, j'ai fait, tu sais l'autre, elle parle en langue. Il fait, non, c'est pas possible. Il me fait, comment t'as fait? Il vient, il cavale l'escalier, il me dit, comment t'as fait? C'est vrai que tu parles en langue, toi? J'étais en train de balayer. Je dis, ben oui. Je dis, c'est écrit dans la Bible. Hein. J'avais l'impression toujours qu'on allait me réprimander. On me réprimandait parce que c'est vrai, je faisais des tas de bêtises. Hein, au point où quand on m'appelle, je disais, je répondais pas ni par oui ni par non. Je dis, qu'est-ce que j'ai encore fait? Donc, et là... Il me dit, est-ce que tu as reçu le parler en langue? Je dis, oui, mais c'est écrit dans la Bible. Il me fait, oui, je sais. Il me fait, vas-y, parle. Et je dis, je ne vais pas te parler comme ça en langue. Il faut que je prie. Hein. Il me dit, bah, alors, t'as qu'à prier. Je dis, pas de problème. Du haut de mon balai, là, j'avais mon balai dans la main. Je me suis mise à prier. Et puis, parle à Cardamon Chaud, à Cardamon Tessé. Il me dit, c'est pas possible. Et c'est là que Dieu confond. Dieu, il confond. Et c'est vraiment, c'est l'œuvre de Dieu. Il me fait, tu ressens quoi? Je dis, je ressens simplement que Jésus m'aime. Et c'était la révélation. Jésus est même. Personne ne m'a révélé ça avant. Cet amour inconditionnel, cet amour profond qui va jusque dans les entrailles. Rien ne peut me dire le contraire. Et j'évangélisais donc au collège et je distribuais des Bibles. Et un jour, il y a une copine qui... sa famille avait trouvé une Bible chez elle et ils ont su que ça venait de chez moi, que ça venait de moi. Et là, c'était grave hein, parce qu'en plus, ils ont été dénoncés ça au commissariat et il devait y avoir quasiment une descente hein, chez nous, hein, à la maison. Mais après, le père de famille a dit, c'est scandaleux. Quand il y a la police, tout se sait là-bas. Hein. Les maisons sont accolées, les gens... Tout se sait donc, c'est un déshonneur pour la famille que la police vienne, puis c'était la nuit, et le père de la fille a dit, non, n'y allez pas, mais moi je vais aller voir le père. Donc le soir, et moi le matin même, la copine elle m'a dit, tu sais, mon père, là je pense que tu vas le voir, ou alors il va y avoir des problèmes. Il a dit qu'il allait porter plainte, et le soir, on toque à la porte. J'ai compris que c'était ça. Il y avait le père, le cousin et l'oncle. Ils étaient impressionnants, surtout avec leurs des burnous. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que des burnous, c'est des capes en laine blanche. C'était des hommes. Et moi, je venais juste de lire dans cet évangile, « Celui qui me nie devant les hommes, je le nierai devant mon père. » J'ai dit, « Malheur à moi si tu me nies devant le père. » Ça m'a pris aux tripes. J'ai eu peur d'être niée devant Dieu le Père. Jésus, j'ai dit, je ne veux pas. Mais je tremblais devant mon père, mon papa. Il était boxeur professionnel à 16 heures perdues. Il posait pour une revue, comment on appelle là, quand il fait les poids. C'était pas de la plaisanterie. Il avait 3 kilos ici, 3 kilos ici. et t'en donne une, tu atterris à San Francisco en planche à voile. Je pouvais pas tenir de... C'est bon, quoi. Ce soir-là, je riais pas. Je savais que j'allais mourir. Et en plus, mon frère n'était pas là. À la maison, on commençait à pleurer. Tout le monde a commencé à pleurer. J'ai regardé Aïcha, je dis maintenant, priez juste pour que je ne nie pas Jésus. J'ai regardé le ciel, j'ai dit, Jésus, je tremble de tous mes membres. Je sais que je vais mourir, passer le déshonneur. C'est quasiment... Ouais, c'est un déshonneur, c'est grave. En plus, on part de la police. Et puis, c'est une, je suis d'une famille qui est connue, qui est honorable. Qui est, donc, c'est plus une fille qui fait ça. À la limite, c'était un garçon, on va dire, allez, il a commencé à devenir un peu un délinquant, parce que c'est quasiment une délinquance. Hein. Tu suis à Jésus, tu... Et il m'appelle, il me dit, viens-toi. C'est quoi ces histoires? Je dis, moi, j'ai rien fait. Je dis, j'ai juste donné une Bible. Il m'a dit, tu n'as rien donné du tout. Il m'a dit, tu vas descendre et tu vas leur dire que ce n'est pas toi qui as donné la Bible, que toi tu crois en Mohamed et que nous on est des musulmans. Je tremblais, j'avais perdu mes forces. J'ai dit, mourir pour mourir, Seigneur, mais je ne vais pas te nier. J'ai dit, okay, de toute façon, je sais ce que j'ai à dire. Et je suis partie. Ils m'ont posé des questions. Et en plus, cette copine, en fait, elle est comme moi, elle est de mère française et de père algérien. Et à part que sa mère est restée en France, ses parents étaient divorcés, elle avait aussi son petit frère, et elle ne voyait pas sa mère, et elle pleurait sur mon épaule, hein. Dis-toi, moi tu as ta mère, mais moi je n'ai pas ma mère. Et je vais mourir pour mourir, tant qu'à faire, je vais encore évangéliser, puisque c'est la dernière fois que je vais encore vivre. Et je me suis mise à évangéliser, haute comme trois pommes, hein. J'avais 16 ans. Bon, je n'ai pas plus grandi depuis. Une fois, je pleurais, je disais, c'est une parenthèse. Je sais pas quand tu m'as fait haute comme trois pommes. Voilà. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère, tu m'as quitté de fil. Jésus me fait rire. Il m'a dit, je vous assure, il m'a dit, je te défie, ma fille, de trouver trois pommes qui feraient ta hauteur. Il m'a dit, une pomme, une deuxième pomme, et t'en as une autre. Avec celle-là, elle me dit tout ce qui est petit et mignon, elle est trop mignon. Je dis, elle reste en travers de la gorge. Non, mais il me raconte des blagues. Je ris avec le Saint-Esprit. C'est formidable. Gloire à Dieu. Et j'ai témoigné. Je me suis mise à parler à cet homme. Je dis, vous rendez compte, vous êtes absent toute la journée. Votre épouse, parce qu'il est picolé. J'ai dit, vous êtes aussi absent toute la nuit. Je dis, votre épouse, elle fait des bébés, c'est votre fille qui les élève. Je lui dis, à côté, je lui fais la morale. Et je lui dis, maman, il me dit, mais la Bible. Je lui dis, la Bible, je vous ai dit, je lui dis, vous dites pas, parce qu'en Algérie, quand tu dis parole d'homme, c'est plus qu'une signature. C'est parole d'homme. Il y en a qui vendent des maisons sans contrat, sans signature. C'est parole d'homme. C'est l'honneur de sa parole, c'est l'honneur de son nom et de toute sa tribu. Et Dieu seul que les tribus sont longues, hein. Sont grandes. Donc, il ne peut pas revenir sur sa parole. Et je vous dis, parole d'homme. Donc, si l'homme, il veille sur sa parole, vous êtes bien d'accord que Dieu, il n'y en a qu'un seul. Donc, j'ai veillé à lui rappeler que je crois en un Dieu unique. Parce que ça, c'est le... Ils pensent que parce que les chrétiens croient en la Trinité, donc il y en a 36 000, il y en a 3. Dieu, on croit en un seul Dieu. J'ai dit, Dieu, il a une seule parole. Il me dit oui. Je dis alors, il ne peut pas se contredire lui-même. Je dis, quand on voit le Coran, il dit quelque chose, il dit que Jésus, il a été crucifié. La Bible dit que Jésus a été crucifié, mais le Coran, il dit qu'il n'a pas été crucifié, qu'il a été représenté par quelqu'un d'autre, Choubéa, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui lui ressemblait, on l'a pris à sa place. Je dis, moi, tout ce que je vous invite à faire, cette Bible-là que vous avez trouvée, j'étais audacieuse. J'ai dit, cette Bible que vous avez trouvée, lisez-la. J'ai évité le regard de mon père, hein, parce que là, il me fusillait du regard. J'ai dit, de toute façon, lui, je sais qu'il va me tuer, mais tant qu'à faire, c'était sérieux. Je savais que j'allais avoir affaire à lui, et c'était vraiment grave. J'ai témoigné à ces trois hommes, et ils étaient touchés. Jusqu'à un moment donné où mon père il m'a chassé, il m'a dit « Tu dégages, après je te règle ton compte. » Mais je n'ai pas nié Jésus. Je n'ai pas nié que c'est moi qui ai donné cette Bible. Et j'ai même sensibilisé cet homme quant à la vie de sa fille. Et je lui ai rappelé que sa fille avait besoin de sa mère. Donc, vraiment, la justice, l'amour, l'attention. Et aussi, j'ai parlé de Jésus. J'ai parlé de Jésus, je n'ai pas nié. On a une maison, tu rentres, tu as le hall, et puis tu as la cour, après tu as l'escalier, nous on habite en haut, 17 marches. Toutes les secondes, je pensais qu'il était derrière moi. J'ai dit, il m'attrape par les cheveux, il me claque la cervelle. Je monte en haut, tout le monde pleurait. Je me suis assise, j'ai pris un bout de pain, je l'ai mangé, j'ai dit, c'est mon dernier morceau de pain. J'ai dit, mais gloire à Jésus, j'ai pas nié Jésus. J'ai dit, je vais mourir. Ma tante m'a dit, maman, tu vas pas mourir, moi je suis là. C'est elle qui m'a dénoncée. C'est elle qui nous a dénoncés. Elle a dit à mon père, tu te rends compte? Parce qu'au début, mon père, t'es pas religieux, donc ça lui était égal. Mais quand il a vu que ça commence à prendre des proportions, et surtout ma tante et ma grand-mère ont commencé à dire, c'est des filles, elles suivent la voie de leur mère, alors que c'est pas du tout ma mère qui nous a raconté, qui nous a parlé de Jésus. Elles vont pas se marier. C'était leur seul souci. Et merci Seigneur, parce que c'est elle que le Seigneur a utilisée pour me cacher le visage. Parce que je vous assure que j'ai été déjà battue dans ma vie, mais battue comme ce jour-là. Maman, il est rentré, il est parti au fond de la salle, il m'a regardé, il m'a dit, tu as vu mon visage? Il m'a dit, tu m'as déshonoré. Il m'a dit, maintenant toute la ville va parler de moi. Et s'est jeté sur moi. Il m'a battue comme jamais je n'ai été battue. Un miracle, je ne suis pas déformée. Je sais, un miracle. Et ma tante, elle a pris des coups. Ma mère, elle n'avait pas intérêt à approcher. Hein, parce qu'elle s'en prenait aussi. Mais ma tante, elle a pris des coups à ma place. Mais elle a caché mon visage. Elle lui dit, tu vas la déformer. Je lui ai dit, elle ne va pas se marier. Elle va te rester sur le dos. Elle dit, c'est tout ce qui les intéresse. Elle m'a donné un coup de pied. Elle m'a donné un coup de pied. Elle me dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Yeah, il t'a abîmé. Voilà, ils disent comme ça, il t'a abîmé. Je dis, elle ne va pas se marier, arrête, elle ne va pas se marier. Je dis, mon coq, c'est cela, ça fait 3 jours que je n'arrivais pas à m'asseoir. 3 jours que je n'arrivais pas à m'asseoir. Je dis, tout ce qui l'intéresse, c'est que je ne vais pas me marier. J'ai dit, le dernier de mes soucis ce soir. Et mais moi, qui étais quelqu'un, parce que j'ai été élevée quand même avec l'islam, quand je lisais l'évangile, où Jésus dit, ne sois pas vaincu par le mal, vainqueur du mal par le bien. Je dis, ça existe ça? Ça veut dire en fait, celui qui t'a fait du mal, tu ne lui rends pas le mal qu'il t'a fait et tu lui fais du bien par-dessus le marché. Je dis, si je ne lui rends pas le mal qu'il m'a fait, s'en sort déjà bien. Si en plus il faut que je lui fasse du bien, je dis, c'est exagéré quand même. Mais, parce qu'en fait, l'islam, comme on m'a enseigné, c'est œil, il y a un verset, hein, c'est œil pour œil et dent pour dent. Et textuellement, ça veut dire que si tu touches à mes yeux, tu deviens borne à ton tour. Et si tu touches à mes dents, je m'improvise dentiste. C'est pour ça que ça se tape dessus, constamment. Et l'amour, elle est où l'amour? Et quand j'ai essayé au collège, j'ai dit, je vais essayer. J'ai essayé de ne pas rendre le mal pour le mal. Et j'ai fait du bien, je vous assure que ça marche. Non seulement j'étais libérée par le mal que la personne me faisait, mais en plus je me faisais des amis. Et quand je me faisais corriger, même parce que j'avais commis une grave erreur, je ne manquais pas d'être effrontée. Donc me faire tabasser comme je me suis fait battre comme ce jour-là, je n'ai pas dit un mot. Tout ce que je savais dans mon cœur, je me réjouissais de ce que je n'ai pas nié le nom de Jésus. C'est tout. C'était les paroles qui revenaient dans ma tête. Heureux êtes-vous si vous êtes persécutés en mon nom. Il n'y a pas d'église. Quand même, à mon époque, je n'ai pas connu d'église. On se réunissait à un moment donné, on a découvert d'autres chrétiens. Et il y avait un semblant d'église qui essayait de naître. Mais les femmes à part, les hommes à part. Il n'y avait pas de pasteur. Ici, c'est un luxe. On vient s'asseoir, on a des chaises. Et le pasteur, il a passé, je ne sais pas combien d'heures à préparer un sermon. Tu as des encouragements, tu as des prières. C'est un luxe, c'est énorme. Tu as une Bible, tu as toutes les versions possibles et imaginables. Et en parlant de Bible, à ce moment-là, on recevait donc des Bibles, même pas des Bibles neuves, hein, mais c'est un cadeau quand on te donne une Bible. Des livres, de la littérature chrétienne. Et après, on a été persécutés. Et c'était un des premiers miracles que j'ai commencé à vivre au début. Eh bien, la famille, mes tantes, mes grand-mères et tout ça, mes oncles, ils ont initié les enfants à investir parce qu'on vit en communauté. Hein. Je suis née dans une maison, on était plus de 30 personnes. Donc, sans compter les cousins, les cousines, ça rentre, ça sort. C'est... Et là, ils ont initié un peu les cousins à venir nous dérober nos Bibles. Et quand on a réalisé que ça, c'est un peu comme tu rentres chez toi, tu te fais dévaliser, on te prend ton congélateur, on te prend ton garde-manger, on a investi ta maison. Et comme on savait aussi que c'était pas demain la veille qu'on allait avoir de nouveau une Bible, on était en larmes. Et mes sœurs, elles étaient furieuses. Et à ce moment-là, Aïcha était déjà partie faire ses études sur Alger, mon frère n'était pas là, donc j'étais la plus grande. Et j'entendais mes sœurs, ouais, je sais qui c'est qui a fait ça, ça ne peut être qu'eux, je vais leur faire ci, je vais leur faire ça. Et à ce moment-là, l'Esprit de Dieu s'est saisi de moi. Je lui ai dit, tu ne vas rien leur faire du tout si ce n'est prier pour eux. Mes sœurs étaient en colère. Elle dit, ben oui, mais tu te rends compte, et cette Bible, moi j'y tenais. Je lui ai dit, moi aussi je tiens à ma Bible, qu'est-ce que tu crois? Je ne sais pas comment je vais faire sans elle. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à cette Bible justement? On pleure pour elle. Il dit, bien, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour vos ennemis. Je dis, alors maintenant, si on ne l'applique pas, je ne vois pas quoi ça sert de la lire. Et il dit, oui, mais comment est-ce qu'on va faire? Je dis, souviens-toi aussi qu'on a lu. Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Je dis, bon, on va faire ça. J'ai ramassé mes soeurs, je dis, bon, ferme la porte, on va prier. On a prié. J'ai béni mes cousins, j'ai béni ma famille, j'ai béni tous ceux qui nous ont dérobé nos Bibles. Je vous dis combien j'étais malheureuse. Tout en te disant que peut-être que tu vas rester, je ne sais pas, 6 mois, 1 an sans Bible. Qu'il va falloir te rappeler tout ce que tu as appris par cœur. Et puis bon, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. On est parti dormir. Et comme on dormait dans la même chambre, forcément le matin je me suis réveillée. J'ai commencé à réveiller mes soeurs, je sais où est-ce qu'elles sont les Bibles. J'ai fait un songe. Et le Seigneur m'a révélé où est-ce qu'elles étaient. En fait, on avait dans notre chambre un meuble qui était construit par un menuisier, mais directement dans la chambre, en fait, il était fixé. Une partie ponderie, une partie étagère. Mais la partie étagère, on pouvait quand même un peu la bouger. Mais ce n'est pas le genre de meuble que tu bouges tous les mois. Et ils ont dû... pour ne pas se faire attraper dans les couloirs, ils ont dû tirer. Et je dis, les Bibles et les livres, ils sont derrière ce meuble. Fais-moi ce que tu le sais. Je dis, je te dis, Dieu, il a dit, les jeunes gens auront des songes et des visions. J'ai dit, je l'ai vu dans un rêve. J'ai dit, mais arrête maintenant de discuter, viens m'aider à tirer ce meuble. Et on était là, toutes les quatre, il y avait ma grande sœur. Ma grande sœur, elle était là, Asina était là, il y avait mes deux petites sœurs et moi. Et on s'est mis à tirer ce livre, une avalanche. Toutes les Bibles et les livres ont dégringolé. Et des alléluia, des éclats de rire, on s'est serré dans les bras, alors qu'avant on se crêpait chignon. Pour vous dire comment Jésus a changé même notre façon de vivre. On ne savait pas se dire « je t'aime », on ne savait pas se prendre dans les bras. Tu sais, les conflits de fratrie, eh bien, avec ces expériences-là, il y avait des alléluia. Fait, alors tu l'as vu? Je dis oui, je l'ai vu dans un rêve. Je dis, tu vois, regarde. Et là, vraiment, je dis, tu vois comme ça sert de bénir son ennemi et de ne pas entrer dans l'œuvre du diable. Et là, vraiment, le Seigneur nous a montré où était ce trésor. Et je peux vous dire qu'à partir de là, c'était encore plus un trésor. Et on voyait vraiment que Dieu pourvoit à notre enseignement, à notre nourriture spirituelle. Et donc à l'époque, je travaillais j'étais coiffeuse. Avant, j'avais commencé à dire que mon frère, un soir de février, donc c'était à l'âge de 16 ans, juste avant que je vive ces expériences-là, c'est là que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Mon frère était dans notre chambre, et Saint-Esprit l'a touché, il lui a dit, mais je veux agir. Et puis il a commencé à parler, à dire qui croit en Jésus. Et pensait que mes autres sœurs allaient parler, mais c'est moi qui a parlé. J'ai dit, ben moi je crois en Jésus, mais qu'est-ce que tu sais de Jésus? Et il ne pensait pas que je le lisais, cette bande dessinée. Si, je l'ai lu. Et je lui ai dit tout ce que je sais de Jésus et tout ce que je... Il me dit, mais est-ce que tu le crois? Oui, je lui dis, je le crois. Et à sa grande surprise, il me dit, est-ce que tu as envie de donner ta vie au Seigneur? Je lui ai dit, ouais. Il me dit, ben alors on va prier. Je lui ai dit, ah, moi je ne sais pas prier. Moi je pensais que c'était la prière comme Marie. Je ne savais pas comment est-ce qu'on priait. Je n'avais pas compris qu'en fait, je priais avant. Je parlais à Dieu, mais je ne savais pas que c'était la prière. Et puis il m'a dit, moi je vais prier, et puis tu dis amen, si tu es d'accord, tu dis amen, amen, ça veut dire que tu es d'accord. Et c'est comme ça qu'il y avait Aïcha. Et je lui ai fait pas mal de vacheries, hein, ma sœur. Elle était studieuse, elle tenait à ses cahiers, et je peux vous dire que je lui en ai piqué des cahiers, que j'ai déchirés, et ça a été une guerre entre elle et moi, hein. Et j'avais aucun remords. Mais ce soir-là, quand mon frère a prié pour moi et que j'ai donné ma vie au Seigneur, la première des choses, que j'ai été touchée, j'étais en larmes, j'ai couru dans les bras d'Aïcha et je lui ai demandé pardon. Et je lui ai demandé pardon pour tout le mal que j'ai pu lui faire, j'ai demandé pardon à mon frère. C'est un signe, la repentance est le signe de la présence du Saint-Esprit qui vient habiter en toi. Et ça a été, c'était pas courant chez moi, hein. Donc, pour dire comment ce que le Seigneur a travaillé, donc par la suite, donc j'ai fait une formation en coiffure et je travaillais dans un salon de coiffure. Et voilà qu'il y a une, j'étais responsable. Et quand il n'y avait pas de travail, ben j'avais ma Bible et j'étais en train de lire. Prenez les fardeaux les uns des autres. Et j'avais une apprentie qui, en fait, elle avait été déjà dans un autre salon. Et j'évangélisais, hein. Après tout ce que j'ai vécu, après je savais que de toute façon il fallait continuer à évangéliser, à parler de Jésus. Tu peux pas, quand tu vis des choses merveilleuses avec Jésus et il te révèle. Il y avait des moments où je marchais dans la rue, j'allais au travail, j'entends sa voix et il me dit, je descends parce que c'était une cuvette, il me fait tu t'arrêtes et tu remontes, tu passes pas par là, tu passes par l'autre côté. Au début je me dis je fabule. Je continue à marcher. Je t'ai dit, tu t'arrêtes et change de chemin. Je t'ai dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Seigneur, si c'est toi, tu me le montreras. Plein cœur d'Algérie, hein, et surtout à l'époque, je change de chemin, je fais la boucle. Et qu'est-ce que je trouve sur le macadam? Un feuillet, un traité du calendrier, avec un verset et le commentaire que j'avais besoin. Comme ça, au beau milieu du chemin. Et c'est pas une fois, pas deux fois que j'ai vécu ça. Et même ici en France, j'étais à Paris, je prenais le métro, j'étais à une époque où j'étais vraiment dans une tribulation terrible. Et le métro, il faut faire vite. Quand tu rentres dans une, on appelle ça une rame, c'est ça, hein, les wagons, hein? Je sais pas, dans un wagon. Le Saint-Esprit me dit, tu sors. Et moi, je suppliais le Seigneur, je dis, parle-moi, je sais que je suis dans la vérité. Mais je suis persécutée. Et le Saint-Esprit me dit, sors, ne me prends pas cette rame, prends l'autre. Et là, tu as intérêt à réagir rapidement à cette voix. Je sors, je prends l'autre. Il y avait plein de monde debout alors qu'il y avait une place assise. Je m'assois, il y avait une réglette là qui retient la vitre. Et je fais comme ça et j'aperçois un papier. Je tire le papier. Et c'était un feuillet du calendrier. Avec un verset et le commentaire j'avais besoin d'entendre. Et à un moment donné, j'ai fini par obéir à cette voix. Je réponds à cette voix. Une fois, c'était sur l'autoroute. C'est l'air de repos, j'étais aux toilettes, il y avait deux WC pour dames, j'entre, la même voix qui me dit « tu rentres pas ici, tu vas ailleurs ». Je dis « encore, allez, vas-y, j'y vais ailleurs ». Maintenant, il n'y a plus de soucis, je réponds. Je vais, et c'est l'autre, justement, c'est le lavabo de ce WC-là que j'ai été me laver les mains, et il y avait un feuillet, et c'était un moment où j'étais saturée, j'étais tellement persécutée. À un moment donné, j'ai dit « Seigneur, est-ce que je vais vivre ma vie dans la persécution ?» Est-ce qu'il n'y a pas un peu de répit? J'avais presque envie d'abandonner. Eh bien, il y avait un feuillet sur le lavabo. Je l'ai encore chez moi à la maison, c'est une pièce à conviction. Chaque fois, je la reprends comme ça. Et c'est un passage qui parlait de l'Apocalypse et qui me donnait des avertissements à ceux qui se découragent. Et aussi, à la fin du vers du feuillet, il y avait des encouragements. J'ai dit, manque plus que je te vois avec mes yeux. Tu es là, tu me parles. Je sais que je suis persécutée, mais Seigneur, si je suis persécutée, c'est la preuve que je suis dans la vérité. Et cette voix-là, elle est tout le temps. Alors, j'étais en train de lire la Bible, et il y avait une apprentie. Elle ne m'a pas dit au début qu'elle connaissait, qu'elle avait même une Bible chez elle. Elle m'observait, elle observait ma façon de vivre, de faire, de travailler, et surtout comment je rendais la recette au patron. Encore la semaine dernière, elle était chez moi, elle m'a dit « Tu m'as touchée par ton honnêteté, ton intégrité. » Elle m'a dit « J'ai jamais vu ça. » Et il se trouvait que le jour où je lui ai dit « Est-ce que tu veux que je te ramène une Bible ?» Elle m'a dit « C'est pas la peine parce que j'en ai une. » C'est jamais devant qui tu parles, hein. Je dis, comment ça se fait que tu as une Bible, toi? En Algérie, surtout à cette époque, tout le monde n'avait pas une Bible. Hein. Elle me dit, parce que de toute façon, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a parlé de Jésus et qui m'a donné une Bible. Elle m'a dit, à la différence. Elle m'a dit, j'y ai jamais cru. Elle m'a dit, à la différence, c'est que toi, tu l'appliques. J'ai dit, Seigneur, quelle responsabilité on a. Quelle responsabilité. On ne sait pas devant qui on est, devant qui on parle. Et tu n'as pas intérêt à parler de l'évangile si à côté tu ne l'appliques pas. Parce que tu as des fruits à côté, il y a des gens qui sont affamés. Et un jour elle déboule. Parce qu'en fait elle est fille d'émigrés. Et elle est née en France, elle a fait ses études ici, elle est arrivée en Algérie. En fait sa scolarité était complètement. Était pas normale. Et elle n'avait que des portes fermées. Et au moment où je lisais ce verset, prenez les fardeaux les uns des autres, et elle déboule, elle me dit, Shafika, tu es ma dernière chance. On m'autorise à passer l'examen de coiffure pour avoir mon diplôme le mois prochain, avec la section qui est en cours. Mais en fait, elle a appris le métier sur le tas, donc elle n'a pas fait la théorie, qui veut dire en fait ce que moi j'ai fait en presque 2 ans, en 1 an et demi, elle devait le préparer, parce qu'on vous prépare pour l'examen, pendant les formations. Hein. Et tout ce que moi j'ai préparé en 1 an et demi, elle devait le préparer en 1 mois. Et vu le verset que je venais de recevoir, j'ai compris, le Seigneur m'a dit, c'est ton fardeau, prends-le. Je lui ai dit, ben écoute, je m'occupe de toi, il n'y a pas de souci. Je l'ai libéré quant à ses responsabilités, et je lui ai mis le matériel, j'ai pris la responsabilité moi-même, j'ai mis le matériel à sa disposition, j'ai dit, tu trouves un modèle, et tu travailles, et je te montrais. Puis du coup, dans la journée, elle travaillait tout ce qui était pratique, et le soir, c'était la théorie. Et ben, le soir, c'était pas gagné, parce que ça aurait été super que j'aille chez elle, mais moi, nous, tu découches pas. Mon père, elle a dit, hors de question, parce qu'elle a disposé d'une chambre, mais du coup, ben, si elle venait chez moi, il a accepté, il m'a dit, moi, je l'accueille. Donc, elle a été accueillie, et pendant 1 mois, on a travaillé, mais dur. Et on a reçu des paroles. Et c'était difficile parce qu'on était très fatiguée, elle était nerveuse, et à un moment où elle devenait même insupportable. Elle devenait limite méchante. J'aurais pu le dire devant elle, hein, parce qu'après on s'est réconciliés. Et plus d'une fois, elle m'a envoyée promener dans les grandes largeurs, elle m'a dit, de toute façon, je n'ai pas besoin de toi, et je prends mes affaires et je rentre. Elle partait, et moi, c'est moi qui la retenais. Et je la supplie, je dis, tu peux pas faire ça, c'est ton diplôme. Et Seigneur veut te le donner, souviens-toi. Elle me dit, je n'en ai rien à faire de ce diplôme. J'ai été amenée à bout. J'étais à bout. Jusqu'au jour où je me suis dit, Seigneur, je tiens à ce diplôme, j'ai l'impression que j'y tiens plus qu'elle. Et maintenant, est-ce que peut-être que tu me dis aussi de lâcher? Et quand elle a commencé à abandonner, je donne ces détails parce que vraiment, la gloire de Dieu a éclaté à travers cette expérience, ce témoignage. Elle a décidé de partir et de tout abandonner. Je l'ai prévenue, j'ai dit, Dalila, je te préviens, tu t'en vas. Cette fois-ci, je ne te rattrape pas, je ne fais rien pour te retenir. J'avais 22 ans. J'ai dit, je ne fais rien pour te retenir. Ce diplôme, c'est le tien. Dieu veut te le donner. Maintenant, si tu pars, ce sera ta responsabilité. Elle est partie, moi j'étais abattue, j'ai supplié l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, c'est aussi ton œuvre. Tu m'as dit, c'est ton fardeau, prends-le. J'ai dit, maintenant, si vraiment ce fardeau, c'est toi qui me l'as donné, tu la touches, elle revient. Elle a été jusqu'au bout de la rue. Elle a dû faire 200 mètres. Elle était farouche, elle était mauvaise. Même mes sœurs m'ont dit, je me demande pourquoi tu la supportes. Tout ce que tu fais avec elle et avec celle, on le voit promener et regarde comment elle te traite. J'ai dit, le Seigneur l'aime et moi aussi je l'aime. Et si on aime seulement quand on est gentil avec nous, c'est pas de l'amour, c'est ce que Jésus... Mais c'est un amour que Dieu a mis en moi. C'est vraiment un don. Et je voulais la bénir. Parfois le Seigneur va te charger comme ça d'une mission. Tout d'un coup, je la vois apparaître en larmes. C'était plus la même personne. Elle me demande, mais confuse, elle me demande pardon. Et j'étais étonnée. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, écoute, j'ai arrivé. Elle m'a dit, j'ai jamais vécu ça. Elle m'a dit, j'ai senti quelque chose de chaud et après de froid. Elle m'a dit, je crois que c'est le Saint-Esprit. Elle m'a dit, je me suis rendue compte, mes yeux sont comme ouverts. Elle m'a dit, comment est-ce que je peux me permettre d'être aussi méchante comme ça avec toi? Et elle m'a demandé mille fois pardon. Elle m'a dit, est-ce que tu me reprends? J'ai juste envie de continuer. J'avais envie de lui sauter au cou. Le Saint-Esprit m'a dit, surtout tu ne fais pas ça. Je me suis retenue. J'ai dit, je te reprends à une condition. Parce que ça, je ne savais pas faire. J'étais sentimentale. J'étais heureuse parce que Dieu venait de m'exaucer aussi. Donc très émotionnelle. J'ai retenu, contenu mon émotion. Et là, j'ai été ferme. Parce que c'était ce verset à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Je dis, je te reprends à une condition que c'est la dernière fois que tu me fais ça. On n'a plus de temps, on n'a plus que 10 jours, on trace. Elle m'a dit d'accord. Et on a bûché, on a travaillé. Elle a travaillé, je peux vous dire qu'elle a travaillé jour d'examen mieux que moi. Et comme tout se sait, tout s'apprend, là-bas donc rien ne se cache, tout le monde nous riait au nez, tout le monde nous dit, bon, c'est pas sûr qu'elle va l'avoir. Je dis, si, si, elle va l'avoir parce que Dieu nous a donné la promesse qu'elle aura son diplôme. Et une cousine, aujourd'hui elle est convertie, mais à l'époque elle n'était pas convertie, elle se riait de nous. Et je peux vous dire que je vous assure, elle est partie avant nous pour aller voir les résultats. Pour venir avec un sourire jusque-là, me dire, tu sais que ta Dalila, eh ben, elle n'a pas eu son diplôme. J'étais chez elle, chez cette cousine, parce que c'était le mariage de sa sœur. Je dis quoi? Elle m'a dit, ben, elle n'a pas eu. Je dis, quoi? Elle m'a dit, je dis, ben, il y a les résultats, ils sont affichés, son nom n'est pas inscrit. Je savais qu'il y avait les résultats, moi je devais y aller l'après-midi. Mais j'étais confiante, donc je n'étais pas pressée d'y aller. Et quand elle m'a donné cette info, je me suis tout de suite rappelé tout ce que Dieu nous a dit. On avait reçu des paroles, comme dans Ésaïe, je ne vous envoie pas chercher là où il n'y a rien. Et cette expérience où quand je lui ai dit, Seigneur, si c'est ton œuvre et que tu nous appelles à la victoire, eh bien qu'elle revienne d'elle-même. Elle est revenue repentante. Donc à partir de là, je savais ce que Dieu avait dit. Je l'ai regardée, je lui ai dit, c'est un mensonge. Elle m'a dit, Wallah, tu vas voir, c'est écrit, son nom n'est pas dessus. La liste, elle est là. Je lui ai dit, quoi que tu dises, je te dis que c'est un mensonge. Et comme c'est pour ça que je vous dis que c'était le mariage de ma cousine, donc de sa sœur, j'ai poussé un you-you comme tout à l'heure. Parce qu'en fait, les you-you, ça veut dire quelque chose là-bas. On ne crie pas pour rien, c'est des cris de joie. Parce que dans les mariages ou dans les fêtes, les hommes, pour honorer le mari ou le mariage en lui-même, ils viennent avec des carabines. Et ils tirent des coups de fusil vers le ciel pour déboucher les puits anciens d'Abraham. On sait qu'on est des descendants d'Abraham. Et on appelle la richesse d'Abraham, on appelle la bénédiction d'Abraham, et les femmes poussent des you-you pour appeler et recevoir la bénédiction des anges. Elles la reçoivent. Toutes les fois que je fais un you-you ici, vous saurez pourquoi je le fais. D'autant que j'ai... Ouais, c'est encore un autre témoignage, mais je peux vous dire, j'étais asthmatique, et je vous assure qu'il en faut du souffle pour pousser un cri pareil. Et parce que j'ai été guérie de cet asthme, qu'aujourd'hui je peux danser, sauter, je suis une ressuscitée. La vie de Dieu est en moi. Et j'ai regardé cette cousine, j'ai dit, j'ai poussé un you-you, elle m'a regardé, elle ne comprenait rien, j'ai dit, Dalila, elle a son diplôme. Elle m'a dit, tu es folle. J'ai dit, ben, crois ce que tu veux. Alors j'ai été voir, la première des choses, moi, pour moi, c'était d'aller voir Dalila, dans quel état elle était. à la maison, tout le monde était triste. Elle me dit, j'y comprends rien. Elle me dit, toutes les fois où je monte là-haut sur la terrasse pour pleurer, elle me dit, je pleure, dès que je me mets à prier, je ne comprends pas, mes larmes disparaissent, j'ai plus envie de pleurer. Et là, je dis, c'est ça. Le Seigneur, il essuie les larmes. Je lui dis, parce qu'il n'y a aucune raison de pleurer. Je lui dis, Dalila, ce diplôme, Dieu te l'a donné. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, moi, je sais en qui j'ai cru. Il me dit, là, tu me donnes des faux espoirs. Je ne savais même pas que c'était un verset biblique. Je ne m'en souvenais pas. Je ne me souvenais pas que j'avais lu, je sais en qui j'ai cru. Eh bien, elle me dit, tu me donnes des faux espoirs. Je lui dis, je ne te donne pas des faux espoirs. Je dis, il n'y va pas que de ce diplôme, il y va de ta foi et de la mienne. Je dis, notre Dieu est vivant. Et c'est Dieu qui nous a mis dans cette situation. Alors, puisque maintenant, toi, tu n'as plus envie de pleurer, dès que tu te mets à prier, tu n'as pas envie de pleurer, alors ne te force pas à pleurer. Tout ce que tu as à faire, c'est de louer l'Éternel. Et je dis, moi, je rentre à la maison, je vais aller voir le Seigneur. C'est un ami, il était là, il est tout le temps là. Je rentrais, j'ai pris le bus, j'avais envie de dire au chauffeur, fais ça, dépêche-toi. J'arrivais chez moi, je me suis isolée, j'ai pris ma Bible, j'ai pris mes notes à genoux, en larmes. J'ai dit, Seigneur, tu nous as impliqués dans cette affaire, mais je t'ai impliqué dans cette affaire. Il y va de ton honneur, il n'y va même plus maintenant de ce diplôme. J'ai dit, Seigneur, si c'est pour maintenant qu'on rit de ton nom, j'aurais mieux fait de me taire. On aurait fait un examen comme un autre et c'est tout. Hein. Et j'ai pris mes notes et j'ai commencé. Je dis, mais Seigneur, c'est pas toi qui nous as dit ça? Et ça? Et ça? Tu nous as dit, je ne vous ai pas envoyé chercher là où il n'y a rien. Et tu n'es pas resté dans le tombeau non plus. Tu es ressuscité. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et en plus, elle a travaillé, puis elle a mieux travaillé que moi. Et ça, c'est magnifique quand tu es là à genoux devant le Seigneur. C'est comme Abraham qui plaide la cause de Sodome et Gomorrhe. Et s'il n'y avait que 50 justes? Et s'il n'y en avait que 40? Et s'il n'y en avait que 10? Voilà, c'est pas... Comment dire? Avec Dieu, on peut discuter, on peut parler. Il y a ce dialogue, il est vivant et il aime. Et j'ai reçu... La version, c'est pas la même. C'est Apocalypse 3.10. Il me disait... Parce que tu as reçu, à ce moment-là, j'ai ouvert ma Bible et c'est ce verset qui est venu, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Je te garderai au moment de l'épreuve. Garde ta couronne de peur que nul ne te la ravisse. J'ai compris. J'ai dit ouais. Là, c'est comme si je sentais l'Éternel qui est comme un papa ou une maman qui voit son enfant... Qui vit une situation, mais en fait qui sait qui est son père et qui est sa mère, et qui lui fait, c'est bien mon enfant, tu sais qui je suis. Et il dit, je vais aller voir mes parents et tu vas voir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que je sais que mon Dieu n'est pas un menteur. Et c'est écrit, j'ai dit, Seigneur, tu as dit, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour me repentir. À partir de ce verset, avant ce verset, j'étais à genoux. À partir de ce verset, mais une énergie m'a reprise, et là, c'était l'énergie de la victoire. Et là, j'ai dit, Monsieur Satan, au nom de Jésus, ce que tu as volé, tu le rends. Ce diplôme, là où il est parti, il revient. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné ça. Quand je suis venue en France, je dis, la chance, les Français, ils ont des églises, et puis ils ont des séminaires, ils ont des prédicateurs, et quand j'ai vu tous ces enseignements, j'ai dit, ouais, tu vois, ben, moi, je n'ai pas envie d'église, et ben, Seigneur, tu m'as appris tout ça dans ma chambre. Et c'est vrai, il va te l'enseigner dans ta chambre, il va te l'enseigner. Il disait, rentre-toi quand tu pries, ne t'expose pas devant tout le monde, va dans ta chambre, dans le secret. J'ai dit, Seigneur, dans ma chambre, où est-ce qu'elle est ma chambre? J'ai pas ma chambre, on est là, partager une chambre à 14, à 15. Ta chambre, c'est ton cœur. J'allais prier dans les toilettes. Et c'était difficile de prier dans les toilettes parce qu'on m'a enseigné que c'était un lieu impur. Dans l'islam, c'est un lieu impur. Tu ne prononces ni verset biblique, ni verset... C'est-à-dire, des paroles de livres sacrés, tu ne les prononces pas dans les toilettes. Et prier dans les toilettes, il a fallu que je renverse des tabous. Et j'ai dit, Seigneur, voilà, ma chambre, j'ai pas de chambre, mais bon, voilà, je m'isole. Et quand ça a duré 3 jours, Au bout du troisième jour, ils ont arraché. Je prenais des nouvelles de Dalila. Je dis, tu continues à louer. Hein. Le Seigneur il m'a parlé, le diplôme il va revenir. Elle m'a dit, toi tu es folle. J'ai dit, je suis folle de Jésus. Jésus n'est pas un menteur. Si c'est l'évangile, c'est ça, sinon je n'ai pas besoin. Ce n'est pas la peine. Et c'est ça l'évangile. Quand je lis les paroles de l'évangile, ça me donne une énergie, un feu. J'ai dit, Dieu m'a parlé, donc maintenant on va voir ce qu'il va faire. Le troisième jour, ils ont arraché cette liste. Le ministère de l'éducation à Alger a donné l'ordre d'annuler ses résultats et de refaire les corrections. Ouais, j'ai pas téléphoné au ministre de l'éducation, je le connais pas. J'ai téléphoné à l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà qui est notre Dieu. L'Éternel, le Dieu des armées. Quand quelqu'un vient, le diable, il vient te voler ton héritage. Et dans Ésaïe, dans l'Ancien Testament, il dit, jusqu'à quand négligerez-vous un tel héritage? Néglige pas ton héritage. Et c'est pour ça que je me suis levée. J'ai dit, monsieur Satan, tu es le prince de ce monde, soit. Mais Jésus est au-dessus de toi. Est-ce que tu as volé, tu le rends. Il tremble. Et il a tremblé. Et non seulement ces corrections ont été annulées, elles ont été refaites, Dalila a eu son diplôme. Elle a été reçue. J'ai été chez elle, j'ai dit, viens, tu vas voir la gloire de Dieu. Et je l'ai emmenée par la main, j'ai dit, regarde ton nom. Elle a vu, elle était là devant tout le monde. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Elle l'a vu. Et quelqu'un est venu me voir, m'a dit, tu sais, de toute façon, elle a été rachetée. Hein. Ça m'a brisée. J'ai dit, on l'a sabotée. Parce qu'elle a eu de très bonnes notes, on l'a sabotée. Ça m'a fait de la peine quand on m'a dit, elle a été rachetée. Mais Dieu fait comme il veut. Et j'avais peur qu'elle l'entende. Mais elle est venue comme une furie. Elle me dit, tu te rends compte? En plus, j'ai été rachetée. Comme Jésus m'a rachetée. Ah, j'ai dit, il lui a fallu ça pour qu'elle comprenne le rachat. Ah, j'ai dit, bah Jésus, tu fais comme tu veux. À partir de là, bah ouais, tu fais comme tu veux. Il a enlevé ses notes, il a permis qu'on falsifie ses notes, elle a été rachetée, il y avait même une deuxième qui a été rachetée, donc il y a eu la multiplication, et Dieu est bon. Et quand j'ai vu ça, à partir de là, j'ai dit, la défaite n'est pas notre lot. On peut passer par des épreuves. L'épreuve était dure. Pendant 3 jours, j'ai rien compris parce que c'était ma foi carrément en Dieu, les fondements de la foi de Jésus qui m'a rachetée. J'ai dit, mais finalement, est-ce que je crois en un Dieu qui est fantoche ou quoi? C'est pas possible. Et c'est là que je ouais. Finalement, Dalila a pu avoir ce diplôme. Elle a pu être, a pu travailler. Elle est même venue en France. Grâce à ce diplôme, elle a pu travailler avec. Et quand je suis venue, moi, en France, c'est elle qui m'a trouvé du travail, pour vous dire comment est-ce que la roue a tourné. Hein. Donc, Dieu est glorieux. Hein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a tellement d'autres témoignages. J'ai envie de témoigner aussi de la provision de Dieu, comment Dieu pourvoit aux besoins. Il y a eu des moments où, quand j'étais arrivée en France, j'étais dans une situation financière très critique, une situation même injuste. Et moi qui plutôt revendique et n'accepte pas l'injustice, hein, je tape du poing sur la table. Et là, le Seigneur me disait, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Et j'ai pris mes factures, j'étais en formation. J'ai pris mes factures, je me suis mise à genoux, je dis, Seigneur, je ne vais pas me battre moi-même parce que moi je vais me bagarrer, je vais obtenir gain de cause parce que je vais les amener devant, je vais amener la personne qui me menait dans l'injustice devant les faits. Mais ce serait me battre avec mes moyens. J'ai demandé, je dis, Seigneur, tu as dit que j'étais ton enfant, rends-moi justice. C'est tout ce que j'ai fait. Dans la semaine, la MPE, à l'époque c'était la MPE, m'a téléphoné. Donc il y a 14 ans, ici en France, hein, téléphoné pour me demander si mon projet était bien, parce que dans ma formation, ça me plaisait. Je dis ouais, parce qu'en fait, je refaisais ma formation de coiffure pour avoir un diplôme français. Il me dit, mais vous avez une indemnité. Je dis ouais, il me dit, vous touchez combien? Il me dit, mais comment ça se fait que vous touchez si peu? Je dis ouais, mais parce qu'en fait, j'étais à mi-temps, et puis du coup, là, je suis repassée à plein temps. Il me dit, vous n'avez pas fait de réclamation? Moi, j'étais étonnée. J'ai dit, vive la France. Hein. J'ai dit, déjà, on me donne une formation, on me paye une formation. On m'a donné même, on a payé le matériel, parce que je n'avais pas de matériel. Et en plus de ça, on me donnait une bourse. Et je dis, vous voulez pas, je vais encore vous demander plus. Je dis, c'est déjà bien. On m'a dit, ben dis donc, si tout le monde raisonnait comme vous, madame, elle m'a dit, mais c'est votre droit. Ah, je dis, je ne sais pas. Elle a pris mon cas au sérieux, elle s'est chargée de mon cas, elle m'a dit, écoutez, je vous rappelle dans un quart d'heure. La MPE, en général, une fois qu'ils vous ont casé, c'est salam alaikum, au revoir, que la paix soit sur toi. Et après, bon, à partir de là, c'est... tu te débrouilles. Et c'est eux-mêmes qui m'ont téléphoné, et elle m'a rappelé au bout d'un quart d'heure, elle m'a dit, vous préparez un plan, vous demandez à votre directeur les horaires, ce que vous touchez comme salaire, enfin tout ça. Et en l'espace d'un mois, je reçois un courrier, une lettre d'excuse. Mon salaire a été quadruplé. Je regardais les zéros, je me dis, j'ai louche. Et en plus de ça, ils m'ont fait un rappel de 9 mois en arrière. J'ai dit, j'ai pas été chercher après. Je savais que j'étais dans une injustice à cause de quelqu'un d'autre. J'ai demandé simplement à Dieu, fais-moi justice. Et quand on demande à Dieu de faire justice, on ne demande pas à n'importe qui de faire justice. C'est à Dieu Tout-Puissant qui en demande de faire justice. Et on renonce à ses moyens et on dit, voilà, je choisis que ce soit toi qui me fasses justice. Et là, j'ai eu une somme, 3 000 équivalents de 4 000 euros qui tombent comme ça dans mon compte. Je me demandais si je ne rêvais pas. C'est énorme. Il y a quelques mois de ça, vers les fêtes de fin d'année, là, j'ai aussi, là, en ce moment, je refais une formation. Financièrement, c'était très difficile. Et j'ai fait mes comptes, je me suis rendu compte que l'été dernier, d'habitude, je garde mes tickets de caisse. Et là, en été, je n'ai pas gardé mes tickets de caisse et j'ai vu que j'avais fait des courses dans le sud. Et le magasin m'a prélevé 2 fois, il y en avait pour une soixantaine d'euros. Vous allez me dire que ce n'est pas énorme, mais c'est de l'argent. Et surtout, quand il n'y en a pas beaucoup, c'est d'autant plus de l'argent. Et à ce moment-là, je dis, mais je n'ai... Puis sur le relevé de compte, il y avait un numéro de série. Même la banque ne savait pas de quel magasin il s'agissait. Et je n'avais pas de ticket de caisse, je ne pouvais pas faire de réclamation. Je dis, Seigneur, ça me dépasse. Et tu sais que j'ai besoin de cet argent. Et je reçois mon autre relevé de compte juste au moment où j'en avais vraiment besoin. Et bien, de mois de doute jusqu'au mois de décembre, en décembre, et ben, le magasin en question m'a rendu cet argent. Alors que je n'ai pas téléphoné à cette... Je ne savais pas comment les contacter. Pour vous dire que ça soit petit, que ça soit grand, notre Dieu, lui, il est grand. Voilà, je glorifie le Seigneur Jésus. Amen.